Je lisais donc au jour d'aujourd'hui, donc dimanche 11, le sujet de prière qui concerne un pasteur coréen, en fait. Donc bon, forcément c'est quelque chose qui, avec mon épouse, nous a interpellés. Et il est dit, le pasteur sino-coréen Han Chong-yeol, donc sino, il était en Chine, a été assassiné le 30 avril par des agents secrets nord-coréens. Et il apportait de l'aide humanitaire aux réfugiés nord-coréens en Chine. Il laisse une femme et deux enfants, ainsi qu'une communauté de 600 chrétiens. J'y vais brutalement. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'a particulièrement touché. Parce que voilà un homme qui servait le Seigneur de manière particulière, qui avait une place bien spécifique dans un pays où... c'est pas toujours facile, c'est pas toujours simple, et qui avait une communauté qui faisait de l'humanitaire. Derrière, on sait que bien sûr il y avait aussi de la parole de Dieu qui était annoncée, donc à des réfugiés nord-coréens, pour, je sais pas si vous savez, donc des réfugiés, des gens qui s'en vont de la Corée du Nord parce que là-bas il y a la famine, il y a la répression, il y a beaucoup de choses qui vont mal, qui fuient par la Chine et qui, de là, essaie de rejoindre la Corée du Sud ou d'autres pays. Et donc, c'est quelqu'un... Alors, je sais qu'avec Annie, on regarde souvent des témoignages de personnes comme ça qui viennent de Corée du Nord. Mais là, ça nous a particulièrement touchés, parce que c'est quelqu'un qui a une communauté et qui laisse une femme et deux enfants. Et ça m'a touché, parce que moi aussi, j'ai une femme et deux enfants. Moi aussi, je suis là, peut-être tranquillement, chez moi, à lire ma Bible, à lire ces nouvelles-là, à prier, bien sûr. Mais je n'ai pas une épée de Damoclès qui est comme ça sur ma tête. Il n'y a pas particulièrement de menaces qui sont là. Et à la limite, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais moi, si j'étais dans cette situation-là, ma prière, ce serait de dire, mais Seigneur, mais laisse-moi vivre, j'ai une raison de vivre plus longtemps, j'ai une raison que tu permettes à l'ennemi de m'épargner, parce que j'ai une femme et deux enfants. C'est bizarre. Pourquoi est-ce que tu permettrais ça? Pourquoi est-ce que tu permettrais que je m'en aille? Mais ce ne sont pas les plans du Seigneur. Enfin, c'est peut-être pas le plan du Seigneur, mais en tout cas, c'est pas de cette manière-là que le Seigneur réfléchit, raisonne et voit ces choses-là. Et la Bible nous parle du sang des martyrs qui témoigneront auprès du trône de Dieu, qui crieront, Seigneur, jusqu'à quand, jusqu'à quand, jusqu'à quand? Jusqu'à quand est-ce que tu viendras? Jusqu'à quand ce moment-là où tu viendras, tu interviendras, tu te manifesteras, le retour de Christ? Le retour de Christ. Et la foi en Christ. Et je remarque que peut-être dans nos cœurs, il y a beaucoup de choses. Il y a certaines choses qui vont dire, Seigneur, tu es mon Seigneur, tu es mon roi, tu es celui que j'adore, je crois en toi, j'ai foi en toi. Et de notre côté, on dit, Seigneur, pas maintenant. Hein. Alors, souvent, on dit, bon, vous savez, ceux qui retardent le retour du Seigneur, on dit, c'est les fiancés. Ils disent, Seigneur, reviens pas de suite parce qu'on doit se marier, ceux qui sont fiancés. Mais il y a peut-être aussi beaucoup plus de raisons que ça. Seigneur, j'ai des projets, j'ai des plans, j'ai tout un tas de choses qui fait que ce n'est pas encore le moment pour moi de te voir venir ou même de partir. Ce n'est pas encore le moment pour moi de te donner entièrement ma vie. De dire, cette vie que j'ai, elle n'est pas à moi, elle est à toi. Parce que derrière ça, derrière ces petites choses, ce sont ces éléments-là peut-être qu'on dissémine. Ce n'est pas encore le moment. Or, le temps du Seigneur... C'est pas demain, c'est pas hier, c'est aujourd'hui et c'est maintenant. Chaque instant qui passe, c'est le temps du Seigneur. Et si le retour de Christ, si le retour de Christ visible, on l'attend de jour en jour, de jour en jour, dire, Seigneur, peut-être demain, c'est demain que tu vas revenir. Le retour de Christ dans nos cœurs, c'est aujourd'hui et c'est maintenant. Déjà dans nos cœurs, il y a un retour de Christ qui doit se faire. Un retour à la foi. Un retour à dire, je crois en toi, Seigneur. Un retour pour dire, Seigneur, je te donne tout. Seigneur, tu es mon tout, tu es ma... Tu es, tu, J'ai rien d'autre à ajouter. Voilà, je te livre devant toi. Comme on l'a pu le chanter tout à l'heure, j'ai rien à t'offrir, j'ai rien à te donner. Parce que tout ce que je peux te donner, c'est vain, c'est fade. Mais voilà, ce que je suis, ce qui est là, je te le donne. Et je le mets devant toi. Et aujourd'hui, moi, ce dont je voudrais vous parler, c'est du fait de croire en Dieu, de croire en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Il y a beaucoup de gens qui disent croire en Dieu, qui disent croire en quelque chose. Et même ceux qui ne disent pas, qui disent « moi je ne crois en rien », des fois on constate que il y a la superstition, l'homme a besoin de croire en quelque chose. L'homme a besoin d'exprimer ce vide intérieur en quelque chose. Et ce quelque chose dit « je crois ». Ce quelque chose soupire à dire « je veux croire ». Certains croient en Bouddha, certains croient en Allah, certains croient en Jésus aussi. Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui marque cette différence? Nous venons à l'église, donc nous disons « nous sommes croyants », n'est-ce pas? Si nous sommes à l'église, c'est que nous sommes croyants. Nous sommes des hommes et des femmes qui pouvons dire « voilà, je crois en Dieu ». Et plus particulièrement, je crois en Jésus-Christ. Nous donnons peut-être dîmes, offrandes. Nous venons ici, nous sommes avec des sourires, bien sûr. Nous prenons la Sainte Cène, nous participons au culte, nous chantons et nous louons Dieu. Et c'est bien, c'est formidable. Je ne vais pas vous dire le contraire, n'est-ce pas? Je ne vais pas vous dire « mais qu'est-ce que vous faites là ?» Non, ce n'est pas ça. Même si tout ça c'est formidable, moi la question je me pose derrière, quelle est la mesure de notre foi en Jésus? Et la question que peut-être on peut se poser ce matin, c'est ça. Quelle est la mesure de ma foi en Jésus-Christ? C'est difficile à quantifier, n'est-ce pas? C'est difficile à dire. Mais quand je lis des histoires comme ça, et ce ne sont pas juste des histoires, ce sont des faits réels de ce pasteur qui connaissait les implications sur le terrain, il connaissait les dangers qu'il pouvait y avoir sur le terrain, mais il savait qu'il avait un fils, il avait deux enfants et une femme, mais il connaissait aussi les dangers et il a quand même continué, peut-être là où d'autres auraient dit non, moi je vais peut-être rentrer au pays parce que je vais peut-être aller un peu ailleurs parce que moi j'ai une femme et des enfants, c'est un peu trop dangereux, je pense. Mon devoir c'est de les protéger, mais notre devoir c'est de croire en Jésus avant toute chose. C'est de suivre ses projets, de suivre ses plans avant toute chose. Quel que soit le risque, quel que soit l'impact sur notre vie, quel que soit l'objectif qui nous est donné, c'est de suivre Jésus-Christ là où il nous conduit, là où il désire nous voir. De suivre ses plans et de suivre ses projets. Et je ne viens pas seulement dire ici, voilà, si on croit en Jésus-Christ, on sera sauvé. C'est vrai. Si vous croyez en Jésus, amen, j'espère. Si on croit en Jésus, on est sauvé. Gloire à Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire, croire en Jésus? Moi, je crois en Jésus, amen. On croit en plein de choses dans ce monde-là. Le fondement, c'est qu'est-ce que ça veut dire, croire en Jésus? On va prendre un passage dans le livre de Jean, au chapitre 11. Donc au chapitre 11 et à partir du verset 20. Vous savez, c'est le passage où Lazare est mort. Jésus a été prévenu, mais il a un petit peu tardé à venir. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais visiblement, c'est la chose qu'il avait reçue, qui devait se passer comme ça. Et ayant tardé, donc Lazare étant gravement malade, si Jésus avait été là, il aurait pu le guérir. N'est-ce pas? Et c'est ce qu'on va voir dans ce passage où Marc lui parle et elle lui dit exactement ça. Lorsque Marthe, donc Jean chapitre 11 verset 20, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Ah, quelle joie! Oui, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Et elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu as été le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Donc là, comme je vous le disais tout à l'heure, précédemment, on a cette Marthe qui est justement là et qui dit, voyant Jésus venir, mais si tu avais été là précédemment, si tu avais été là plus tôt, Jésus, tu as été prévenu, tu savais qu'il fallait venir, pourquoi est-ce que tu n'es pas venu plus tôt? Pourquoi est-ce que dans cette situation catastrophique, dans cette situation désespérée, tu as tardé? Tu as mis autant de temps? Moi, j'ai prié peut-être, j'ai demandé, Seigneur, viens, viens, viens. Mais tu n'es pas venu, tu n'étais pas là. Comment ça se fait? Pourquoi est-ce que tu as tardé autant? Pourquoi est-ce que tu as laissé la mort rentrer? Pourquoi est-ce que tu as laissé la mort venir dans ma famille? Pourquoi ça? Mais quand même, Marthe, dans cette situation, parle avec foi. Mais je sais que ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Mais est-ce qu'elle croit que Dieu peut l'accorder ici, maintenant? Est-ce qu'elle croit que ce que Dieu peut faire, ça peut se réaliser maintenant? Lorsque Jésus continue à lui parler, il lui dit, je suis la résurrection et la vie. Elle dit, oui, bon, je sais que Dieu ressuscitera toute chose, toute personne à la résurrection. Non, non, je suis là maintenant, je suis la résurrection et la vie. Et là, Marthe dit, oui, je crois, et puis elle s'en va. Oui, je crois, et puis elle s'en va. Je ne suis pas là pour critiquer Marthe. Marthe, on la critique beaucoup, hein, quelqu'un qui est... Et moi, je l'aime bien, Marthe. Quelqu'un qui est dur au labeur, qui a le sens pratique, qui est très pragmatique. Donc, on n'est pas là pour critiquer Marthe. Mais on est là pour comprendre que ce dont Jésus parlait, c'était de cet instant présent. Peut-être qu'il avait tardé, mais il était là maintenant. Et le fait qu'il soit là signifiait la résurrection et signifiait la vie. Et ce que Jésus demande à Marthe, c'est « Est-ce que tu crois à ça ? » Est-ce que tu crois à ça ? Et Marthe lui dit « Oui, je crois. » Et elle s'en va. Et on peut être là à dire « Oui, je crois. » Et oui, on s'en va, vite. Parce que des fois, ça peut être des questions qui nous gênent. Des fois, ça peut être tellement délicat qu'on dit « Bon, j'en finis pas vite parce que là, c'est un peu gênant, là. Hein. Tu es en train de toucher à des choses, ok, moi je crois, quoi. Je crois en Jésus, je crois, je suis croyant. Je crois depuis 20 ans, je crois depuis 50 ans, je crois depuis 10 ans, 5 ans. Je crois, quoi. Mais le aujourd'hui et le maintenant, quel est-il? Quel est-il dans notre cœur? Quel est-il dans notre vie? Et comprendre qu'il ne s'agit pas de dire uniquement « je crois ». Je crois que Dieu existe. Parce que la Bible nous met en garde sur ces choses-là, sur la légèreté de ce que l'on peut penser, de ce que l'on peut considérer. Dans Jacques, chapitre 2, verset 19, il nous est dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Ah, tu fais bien de croire ça. Les démons le croient aussi. Mais eux, ils tremblent. Donc on fait bien de croire à ça. Donc finalement, croire, c'est pas juste la finalité de toute chose. C'est pas juste le fait de dire « oui, je crois ». Et bien sûr, donc dire « oui, je crois en Jésus, donc je serai sauvé », mais il y a du sens, les mots ont un sens. Et ce sens-là, il n'est pas forcément celui que l'on prête, qu'on lui prête. Croire, c'est pas seulement dire « oui, je pense que, j'estime que, je considère que, je crois que ». C'est courant dans notre vocabulaire, n'est-ce pas? C'est courant de dire ça. Je crois que. Mais ce n'est pas le sens, c'est pas ce sens-là qu'il faut certainement chercher. Il faut aller peut-être un petit peu plus loin. Il ne s'agit pas de suivre aveuglément des préceptes, des lois, ou des habitudes, des rites. Hein? Je viens, je prends la Sainte-Seine, je viens, je loue, je viens, tous les dimanches, je fais ça. Alors bien sûr, il faut se retrouver dans la communion fraternelle, mais trouver le sens de ce que l'on fait derrière. comprendre le sens de ce que l'on fait derrière. Comprendre que ce n'est pas seulement ce que je fais qui est important, c'est que c'est ce que je considère de ce que je fais qui est important. C'est la manière dont je le fais qui est important. C'est la manière dont mon cœur est impliqué dans ce que je fais qui est important. C'est la manière dont je sais me placer dans la prière qui est important. Et pas uniquement le fait que je dise « Ouais, je prie. Oui, je fais ça. Oui, j'ai mes habitudes. Oui, j'ai tout mon rythme de vie qui est réglé au millimètre près. Le matin, je me lève à 5 heures, je prie, je compte le temps, il y a 15 minutes. Ok, 15 minutes, c'est passé, dring, le soleil peut se lever peut-être des fois, mais ça y est, il faut que je passe à autre chose. » C'est pas uniquement ça, la vie et la foi qu'on doit trouver avec Dieu. C'est la spontanéité de notre cœur qui a de quoi s'exprimer et de quoi dire « Je crois ». Et je veux agir, je veux faire des choses pour Dieu. Et je veux rechercher. On connaît ce passage dans lequel, lorsque tous les disciples sont venus, ils parlaient de Jésus, d'accord ? Et ils ont dit, oui, il y a un tel qui dit ça. Seigneur, t'as vu ce qu'on dit de toi ? On dit que tu es un prophète. On dit que t'es Élie ressuscité. On parle de toi, hein ? On parle de toi. C'est bien. Et c'est pas ce qui intéresse Jésus. C'est pas du tout ce qui lui intéresse. Qu'on parle de lui comme ça, c'est bien, mais c'est pas ce qui intéresse. Parce que aux disciples, à ses disciples, la question qu'il leur pose, c'est « Qui dites-vous que je suis ?» Moi, ce que les uns, les autres disent, c'est pas ce qui m'importe. Ce qu'on dit de moi à l'église, c'est pas uniquement ça qui m'importe. C'est toi, mon fils, ma fille, mon frère, ma sœur, mon ami, c'est toi. Qui dis-tu que je suis ? Qu'est-ce que tu dis de moi ? Qu'est-ce que ton cœur dit de moi ? Qu'est-ce qu'il exprime de moi ? Et c'est ça la question que Jésus a posée aux disciples. Et là, les disciples, ils étaient un petit peu plus embêtés. Et bien sûr, on reconnaît l'action du Saint-Esprit dans le fait de croire, dans le fait de proclamer Jésus, puisque Pierre a pris la parole et Jésus lui a dit « Ça, c'est pas de toi seulement que ça vient, mais ça vient du Saint-Esprit. » Et on reconnaît l'action de Dieu dans notre vie, le fait que la foi que nous avons, c'est celle que nous réclamons à Dieu dans la prière et dans la recherche de sa présence, et celle qui nous donne par sa présence du Saint-Esprit dans notre vie. Celle qui nous donne par sa présence dans notre vie. Celle qu'on ne peut pas compter. Celle qui fait que des gens peuvent dire « Non mais regardez-moi ces gens-là. Vous avez vu comme ils sont... comme ils sont illuminés. Regardez-les, ils prient, ils font des... » Mais c'est aujourd'hui, au 21e siècle, c'est quelque chose de déraisonné de prier. On sait très bien que l'homme vient du singe, que ci, de là. On sait très bien tout un tas de choses intellectuellement. Et Dieu nous défie sur l'intelligence. Et il renouvelle notre intelligence par la foi qu'il place en nous. Et ça, c'est pas la réflexion uniquement qui peut nous l'apporter. C'est le témoignage du Saint-Esprit dans notre cœur. C'est le témoignage de foi que lui-même nous donne. Et c'est le fait que nous savons nous mettre à genoux et dire « Seigneur, aide-moi à te suivre. Aide-moi à trouver la foi auprès de toi. Renouvelle ma foi ce matin. Renouvelle ma foi cette semaine. Renouvelle ma foi lorsque je serai au travail. Renouvelle ma foi lorsque je serai dans le trouble, dans la difficulté. Et donne-moi de te glorifier. Et donne-moi un cœur de louange pour toi, quelle que soit la situation qui puisse se produire, que ce soit la vie ou que ce soit la mort. Et la mort, ici, on n'a pas trop à la craindre. Pour beaucoup de situations, on n'a pas trop à craindre ça, n'est-ce pas ? Mais quelle que soit la situation, que Dieu nous donne un cœur de louange qui savent reconnaître en lui notre source. Croire, c'est un premier point, mais Paul ne s'arrêtait pas justement à ça. Paul, lorsqu'il parle, il disait, et ce sont des conseils qu'il donnait, lorsqu'il donne des conseils à Timothée, on a là devant nous le maître, d'accord ? On a là celui qui a appris tellement de choses de Dieu qu'il donne à Timothée ne crains pas de témoigner, ne crains pas ton jeune âge, tout ça, ne crains pas. Parce que ce que Dieu a placé dans ton cœur, ça ne s'arrête pas à ça. Et Paul disait aussi à Timothée, il disait pas justement « j'ai cru ». Voilà, moi, cher Timothée, j'ai cru en Jésus-Christ. Il a dit à Timothée, je sais en qui j'ai cru. Et ça change beaucoup de choses. Il n'a pas dit, je sais ce que j'ai cru. Il a dit, je sais. Il a dit, en qui j'ai cru. Et ça change tout de la manière dont qu'on peut voir. Parce que la Bible insiste sur le besoin que nous avons non seulement de croire, et de croire peut-être de manière dans le sens commun du terme, d'accord ? Mais aussi de connaître, mais aussi de savoir. Mais aussi de savoir que quand on creuse au fond de notre cœur, ce qui ressort, c'est cette connaissance aussi que nous avons de Dieu. Cette connaissance que nous avons de Jésus-Christ. Et la notion de connaissance dans la Bible est assez importante. On la retrouve dans pas mal de situations. C'est un mot qui est vraiment important dans la Bible. La connaissance. Connaître. Et connaître, ce n'est pas uniquement donc par la tête. Et des fois, on fait la distinction entre la tête et le cœur. Moi, je ne fais pas de distinction personnellement. La tête et le cœur, ils sont liés. On les fait en... Mais ce n'est pas uniquement « je sais, je connais, j'ai eu vent » ou autre chose. C'est « je sais en qui j'ai cru, je connais ». Et Paul parlait de cette connaissance qu'il pouvait avoir, que nous devions avoir de Jésus-Christ. Et ça fait toute la différence. Parce que si nous sommes chrétiens, si nous sommes croyants, ce n'est pas uniquement des paroles en disant « je crois », c'est aussi « je connais ». Et le témoignage souvent de celui qui vient à la foi, c'est dire « mais j'ai rencontré Jésus-Christ ». Amen. J'ai rencontré Jésus-Christ. Et des fois, peut-être au fil du temps, oui, j'ai rencontré Jésus-Christ. Et est-ce que je rencontre Jésus-Christ? Est-ce que je vis cette rencontre avec Jésus? Est-ce que de temps en temps, est-ce que souvent, est-ce que par moment, le Seigneur sait me reprendre dans ma démarche? Le Seigneur a l'occasion de me reprendre dans ma démarche, dans ce que je vis dans ma vie, pour me donner ses conseils, pour me parler, pour inspirer son souffle, le souffle de vie, le souffle de l'esprit. Et la Bible fait état d'hommes, de femmes qui parleront de Jésus. Je ne veux pas vous mettre mais je pense que la parole, elle parle clairement, et il faut regarder les choses clairement. Parce que, qu'on le veuille ou non, la Bible fait état d'hommes et de femmes qui parle de Jésus, mais que Jésus a décidé d'écarter. C'est terrible. Parce que j'ai dit juste avant, juste au début, si vous croyez en Jésus, si vous croyez en Jésus, vous serez sauvés. Et c'est là toute l'importance de dire, mais qu'est-ce que ça veut dire croire en Jésus? Parce que lorsque Jésus fait état dans Matthieu 7, versets 21 à 22, c'est bien connu, hein. Je pense que vous savez de quoi je veux parler, peut-être. Seigneur, Seigneur. Matthieu 7, versets 21 à 22 nous dit, c'est Jésus qui parle, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Amen. Plusieurs me diront ce jour-là. Amen. « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ?» Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal de prophétiser au nom de Jésus? Non, c'est bien. Mais certains lui diront, « N'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Est-ce que c'est bien ou mal? Non, c'est une puissance que Dieu nous a donnée de pouvoir le faire. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Les miracles, c'est formidable. Les miracles, ça vient de Dieu. Amen. Et on peut être amené à voir beaucoup de choses extraordinaires, beaucoup de choses incroyables, beaucoup de choses fabuleuses. Est-ce que c'est ça qui doit conduire notre foi? Même si ces choses-là, on peut souhaiter les voir. Même si ces choses-là, on ne doit pas se servir de ce passage-là pour dire, voilà, vous voyez, c'est marqué, donc il vaut mieux pas voir de miracle, il vaut mieux pas voir de guérison, c'est pas ça. C'est que ce que la Bible dit, et on va poursuivre, Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et c'est là que c'est troublant, parce que on peut voir des miracles, on peut voir des choses, mais ce que Dieu recherche avant tout, c'est un cœur pur. Un cœur qui cherche à être purifié par lui. Un cœur dans lequel, un cœur qui combat l'iniquité, c'est-à-dire le péché. Un cœur qui ne se laisse pas avoir par la douceur du péché, par ces petites choses qui passent. Et c'est assez important parce que aujourd'hui, l'homme cherche un peu à déplacer les normes de la foi, les normes de la parole de Dieu. Il y a tout un tas de, courants qui voudraient dire, voilà, la parole de Dieu, ok, il est écrit ça, mais on peut l'interpréter de telle et telle manière. D'accord ? Il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que, bon, si tu dis les choses, si tu dis trop crûment la parole de Dieu, il y en a certains, ils vont se sentir visés, ça ne va pas les plaire. Il y en a, voilà. Et aujourd'hui, il y a même des pressions qui sont faites sur l'Église pour dire, ne dites pas tout de la parole de Dieu, ne dites pas tout de ce livre-là. Parce que ça peut discréditer certaines personnes, certains penchants, certaines, ce que certaines personnes voudraient, ont la liberté de faire. Et nous, on veut que les gens aient la liberté de faire ce qu'ils veulent. Donc, ne parlez pas de ces choses-là. Et donc, on cherche, aujourd'hui, c'est un peu une tendance, une pression sur l'Église d'aujourd'hui, de vouloir essayer de déplacer les normes de la parole de Dieu pour le faire rentrer dans les normes de l'homme, dans ce qui est acceptable pour l'homme, pour dire ne nous dérangez pas avec cette parole, ne nous dérangez pas avec ce qu'elle dit, parce que nous voulons vivre notre vie telle qu'elle est. Au point même que le péché, tel qu'il est exprimé dans la Bible, eh bien finalement, au bout d'un moment, ça devient une notion floue. C'est plus très bien de quoi on parle. Est-ce que c'est il faut faire, ne pas faire ou autre chose? Et finalement, le péché, au final, bah, ça ne devient plus un gros problème. Ça ne devient plus un gros problème. Moi, il suffit que je pêche et puis le lendemain, 5 minutes après, je vais dire « Seigneur, pardonne-moi » ou « Voilà, bon, tu m'as accepté tel que je suis, tu vois la situation de mon cœur. » Bon, le péché, ce n'est plus un problème. Quand le péché, si le péché n'est pas un problème, alors je pense qu'on a un problème. Parce que le péché est un problème pour Dieu, qu'il a réglé à la croix. Une bonne fois pour toutes, pour ceux qui marchent sur ce chemin-là. Pour ceux qui marchent dans la vie de foi que Dieu a donnée. Et il ne s'agit pas de voir la vie comme ça en faisant une routine, ou en se laissant accaparer parce que tout un tas de courants pourraient vouloir dire, alors que la parole dit peut-être le contraire. Alors bien sûr, il faut savoir nuancer les choses. Moi, je crois que c'est important que les choses, personnellement, je pense que si Dieu a fait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est parce qu'il aime les nuances, et qu'il n'a pas fait les choses juste pour qu'on le voit en noir et blanc. Donc je pense que c'est important d'avoir conscience des nuances, mais pas du compromis. Pas d'accepter le compromis. Pas d'accepter que, sous prétexte que, voilà, ok, c'est juste pour un temps. Parce que le temps d'aujourd'hui, c'est ce qui importe. Le maintenant de Dieu, c'est ce qui importe. Savoir qu'on est en mesure de mesurer notre vie, de dire, là, ça va, ou là, ça ne va pas. Savoir l'accepter. De savoir, non pas, de ne pas chercher à ce que ce soit Dieu qui s'adapte à nous. Mais que nous sachions reconnaître nos torts, nos défauts. Sachons reconnaître notre péché. Savoir se placer devant Dieu et simplement accepter de dire « Seigneur, j'ai besoin de toi. » Parce que le vrai péché de l'homme, c'est de dire « Je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin que tu viennes dans ma vie. Parce que je peux m'en sortir tout seul. » C'est ce qu'Adam et Ève ont dit lorsqu'ils se sont détachés de Dieu, lorsqu'ils se sont mis dans un coin sans le dire. Ils se sont mis dans un coin, ils se sont cachés parce qu'ils connaissaient le péché de leur cœur. Ils savaient qu'ils avaient fait quelque chose de mal, mais ils ne voulaient pas le montrer. Et peut-être qu'ils auraient voulu régler ça différemment que par un face-à-face avec Dieu. Et des fois, notre péché, nous voudrions le régler différemment que par ce face-à-face que nous pourrions avoir avec Dieu, dans lequel il n'est pas obligé de dire « Mais où te caches-tu ? Où te trouves-tu ? Où es-tu ? Où est ton cœur ? Où est ta vie ? Où est ton amour ?» Pour moi. Quand Jésus est venu, qu'il a commencé son ministère, l'une des premières choses qu'il a faites. Parmi l'une des premières choses qu'il a faites, ça a été de choisir des disciples. Et bien sûr, beaucoup de gens le voyaient comme un enseignant. Le voyaient comme quelqu'un qui venait pour expliquer la parole de Dieu. C'est un maître, c'est un rabbi, c'est quelqu'un qui parle, qui explique la parole de Dieu, qui explique la Torah, qui explique la pensée de Dieu pour nous. Et beaucoup le voyaient comme ça, mais Jésus a choisi des disciples. Et le programme qu'il ne leur avait pas donné, c'était pas « Bon, on se donne rendez-vous demain à 9h, vous aurez votre premier cours. Donc de 9h jusqu'à midi, ça va se passer comme ça. Ensuite, on va faire une pause repas. Il y aura la multiplication des pains, vous inquiétez pas. Ensuite, on va poursuivre à partir de 13h30, ça vous laissera le temps de tout manger parce qu'il y a beaucoup quand il y a la multiplication des pains. Donc on va dire 13h30 et on va poursuivre jusqu'à 17h et puis ensuite, on se retrouve encore demain. » Ce n'est pas un programme comme ça qu'il leur a donné. Quand Jésus est venu, il n'est pas juste venu comme un enseignant pour leur dire « Voilà quel est le programme. » Mais il est venu et la parole nous dit qu'il a habité au milieu de nous. Et ceux qui étaient ici ne l'ont pas connu. Ses contemporains ne l'ont pas connu. Mais il habitait au milieu de nous. Et lorsque Jésus est venu, il est venu enseigner les disciples. Il est venu parler avec eux. Il est venu habiter avec eux. Comme des fois il l'a fait dans la maison de l'un ou de l'autre. Il est venu passer du temps avec ses disciples. Il est venu dormir avec eux. Manger avec eux. Il a tout fait avec eux. Il n'est pas juste venu les enseigner. Il n'est pas juste venu donner une nouvelle doctrine, un nouvel enseignement. Il est venu habiter avec eux. Parce que le désir de Dieu, ce désir qui était là, déjà dès le jardin d'Éden, ce désir qui était là, c'était de passer du temps et de dire « Mais Adam et Ève, où êtes-vous ? Je vous cherche. Où êtes-vous ? Vous êtes cachés. Venez avec moi. » Ce désir était là. Et c'est ça que le péché fait. Il brise cette communion avec Dieu. Et quand on parle de communion, ce n'est pas juste « je suis comme ça ». Le communion, c'est « je suis avec ». Je suis contre. Je suis mêlé avec. La communion. Je suis mêlé avec. Je suis mélangé avec. Et je ne fais qu'un avec. Quand la Bible parle de l'Église, que nous sommes un, quand Jésus parle du fait que nous sommes un en Jésus, nous sommes un dans le Père, il parle de cette communion aussi. Nous sommes cette terre qui se mélange avec la pureté, avec la grâce de Dieu pour faire un vase neuf, pour faire un vase nouveau dans lequel le Père, il regarde, il voit Christ. Et il dit, ça, je l'agrée. Ça, je suis d'accord. Cette communion. Jésus est venu pas juste pour dire « croyez en moi », mais pour partager ce temps et pour vivre cette communion avec ses contemporains, avec ses enfants, dans le but de le connaître, dans le but de vivre une relation avec lui. C'est pas pour rien que la relation avec Dieu fait souvent référence, vous savez, au mariage. Le mariage, c'est sympa. Hein. Ceux qui ne sont pas mariés disent « Oh, Seigneur, vraiment que je sois marié. » Et ceux qui sont mariés disent « Waouh, j'avais pas pensé que c'était comme ça. Merci Seigneur, mais vraiment, des fois, je dis « Ouais, c'est... Je me rends compte que, bon, il y avait des choses, je ne voulais pas tout divulguer quand même, quoi. Je ne voulais pas tout dire. Mais là, finalement, mon époux, bah, il sait tout de moi. » Mes bons côtés, comme mes mauvais côtés. Et c'est pas pour rien que l'image de la relation avec Dieu prend aussi cette image de mariage dans la Bible, l'image de Jésus avec son Église, ce temps de préparation ce temps dans lequel, ok, toutes les promesses sont là, mais il y a aussi ce temps de consommation dans lequel on se rend compte que l'autre est différent aussi de nous et qu'on doit apprendre à vivre avec, l'autre et aussi à vivre pour l'autre, à vivre l'un pour l'autre. Cette image est très forte. Cette image de l'épouse et de l'époux est très forte parce qu'elle marque, la pensée de Dieu par rapport à nous, par rapport à cette relation dans laquelle il veut nous trouver. Cette relation d'échange, cette relation de partage, cette relation dans laquelle nous ne pouvons rien cacher parce que nous sommes tels que nous sommes et Dieu, dans cette relation avec Dieu, nous entretenons un cheminement commun qui va certainement nous changer, qui va certainement nous faire accéder à une autre manière de penser, parce que deux personnes qui vivent ensemble, eh bien, elles s'influencent. Et si nous vivons avec Christ, eh bien, Christ nous influence. La bonne odeur de Christ vient jusqu'à nous. Elle influence notre vie. Elle influence nos cœurs, elle influence nos décisions. Pas de faux semblants. Pas de fausses pensées. Pas de choses cachées. Rien ne peut être caché à Dieu. Et ce serait un mensonge de croire que nous pouvons lui cacher quelque chose. Ce serait c'est un mensonge extraordinairement terrible que le diable veut nous, dans lequel le diable veut nous faire entrer. De croire que nous pouvons cacher quelque chose ou nous ne pouvons pas tout révéler. Parce que dans ce que nous cachons à Dieu, nous brisons cette relation que nous avons avec lui. Nous brisons ce que nous mettons encore un mur, une séparation entre nous et le Père, alors que Christ est venu pour briser cette réparation, ce mur, pour réparer cette distance. Comprendre et réaliser cette vie que Dieu a placé en nous. Cette vie que Dieu veut nous donner pleinement. Cette vie qui n'est pas juste quelque chose du bout du doigt, mais qui est, tout à l'heure, on chantait, hein, tu me prends dans tes bras, tes bras sont si grands, enfin je ne sais plus exactement comment, mais en tout cas, c'est une belle image. Parce qu'effectivement, les bras de Dieu sont suffisamment grands pour nous envelopper avec tous nos défauts, avec tout ce qui ne va pas. Et des fois, on voit des défauts, et Dieu dit, non, ce n'est pas un défaut, moi je t'ai créé comme ça, je t'ai fait comme ça, ce n'est pas ça. Des fois, on est là à être plus perfectionniste des fois que Dieu. Après, d'autres fois, eh ben, peut-être qu'il me dira, attends, là, ça, par contre, ça ne va pas, on va essayer d'arranger un peu, mais t'inquiète pas, on va le faire ensemble. T'inquiète pas, on va le faire ensemble. Parce que, Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est fort comme parole. Moi, c'est une parole que j'aimais bien. Quand je me suis fait baptiser, on me l'a mis en cadre. Il y a quelqu'un avec qui je partageais beaucoup. Il a été voir une personne qui faisait un petit. Il a fait un dessin. Il a marqué ça. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai beaucoup aimé. Aujourd'hui, c'est un joli cadre dans la maison. Ça peut rester un cadre. Ça peut rester un cadre, ça peut rester une belle parole, ça peut rester quelque chose, de temps en temps je le vois, ou des fois je ne le vois même plus parce qu'il est là. Et ça aussi c'est un passage où on peut lire la Bible, on ne le voit même plus parce qu'il est là. Ouais, bien sûr, je suis d'accord avec ça. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ouais. Mais croire en Jésus-Christ, c'est vraiment mesurer le prix de la vie que nous avons. Le prix de la vie que nous avons reçue. Et en prendre soin. Le prendre à cœur, savoir que cette vie que nous avons reçue, c'est la vie de Jésus-Christ. Cette vie qui a accepté de se donner pour nous. Cette vie alors que chacun et chacune d'entre nous, nous étions pécheurs, nous étions éloignés de Christ, nous étions sans but dans la vie, en cherchant des fois un but, mais toujours vain. Cette vie que Christ nous a donnée, parce qu'il a accepté de passer par la croix. Et la croix, excusez-moi, ce n'est pas juste une croix comme ça. Ce n'est pas juste ça. Ça, on l'a ici. On aime bien. Moi, je ne suis pas contre. Hein. C'est bien, c'est joli. Il y a des néons derrière, ça fait chouette. Ça montre, voilà, on est chrétien ici. Hein. C'est une église chrétienne. Il y en a qui portent des croix. C'est bien. Mais la croix, c'est un supplice. La croix, c'est le martyr. La croix, c'est la manière dont les gens, dont on faisait mourir les gens. Et c'était pas pour rien qu'on la mettait sur une croix. Ceux qui vous diront, ouais, non, ils étaient cloués sur un poteau. C'est faux, c'est pas possible. Parce que le but de la croix, c'était pas juste de dire c'est une croix. C'était pas un symbole. Les croyants de l'époque, ils voulaient certainement pas mettre une croix. Ils mettaient un poisson. Aujourd'hui, on les met sur les voitures. Mais les croyants de l'époque, et voilà. Et pas pourquoi ? Parce que la croix, ils savaient ce que c'était. La croix, c'était un supplice où des gens mouraient. Et ils mouraient pas juste parce qu'ils saignaient avec du sang. Ils mouraient pas juste parce qu'il y avait du sang qui coulait. C'était pas juste ça. Ils mouraient parce qu'ils étaient asphyxiés. Si vous tenez comme ça, si vous êtes là, votre corps, il est tiré de chaque côté. Et au bout d'un moment, vous avez du mal à respirer. Et c'est la raison pour laquelle on cassait les genoux de ceux qui étaient sur la croix. Parce qu'ils poussaient sur les jambes. Bon, peut-être que vous le savez déjà, hein, mais je le redis, ceux qui ne savent pas. Mais ils poussaient sur les jambes. Donc ça faisait mal aux pieds, bien sûr, parce que les pieds étaient cloués. Ils poussaient sur les jambes pour un peu plus respirer, mais ça faisait mal, c'était terrible. Donc ils s'écroulaient et ils poussaient encore parce qu'ils n'arrivaient plus à respirer, tout ça. C'est entre deux souffrances. C'est un stade où le martyr, le supplicié, est entre deux souffrances, constamment, constamment. Et lorsqu'on met un terme, on casse les jambes et il meurt asphyxié. Il meurt parce qu'il meurt, même pas comme ça, il meurt parce qu'il n'a plus d'air. Au bout d'un moment, petit à petit, l'air s'étend, l'air s'étouffe, il meurt parce qu'il n'a plus d'air. La croix, c'est pas juste, donc cette croix-là, c'est comme si on mettait, je mettais un... Enfin, je suis pas contre, hein, je comprends, aujourd'hui c'est pas le même sens. Mais c'est pour rétablir le sens des choses. C'est ça que je veux dire. Mais imaginez que vous mettiez une guillotine, voilà, je veux dire, autour du cou, qu'on mette quelque chose comme ça, quoi. C'est pas la même chose, quoi, quand même. Hein? C'est quand même pas pareil. Et encore que la croix, c'est pire que la guillotine. Parce qu'il y a cette souffrance. Il y a cette souffrance donc qu'un homme a portée, a acceptée, alors que même les gens qui étaient autour de lui, les deux autres qui étaient des brigands, qui ont dit, mais nous, on sait pourquoi on est là, mais lui, il a rien fait. Pourquoi est-ce qu'il est là? Parce que c'était la volonté du Père. C'était la volonté du Père. Parce que par sa mort, lui qui était la résurrection et la vie, par sa mort et par sa résurrection, le péché était brisé. La mort qui est rentrée dans ce monde par le péché, c'était la honte. C'est la honte pour le diable. C'est la cata pour lui. Parce que cette mort qu'il avait réussi à faire rentrer dans ce monde, eh ben, Christ disait, ben, tu vois, tu n'as pas le pouvoir. C'est moi qui ai tout pouvoir. Et ceux qui viennent à moi, et ceux qui marchent avec moi, ils ont ce pouvoir de vivre éternellement. Parce que le péché n'a plus d'emprise sur leur vie. Et là, je parle du péché au sens originel, bien sûr. Ce péché qui est rentré dans le monde. Le péché n'a plus d'action sur leur vie. Mesurez le prix de cette vie que nous avons reçue en Dieu. Romains 8, 39 nous dit une chose très importante. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Attention, hein, c'est pas juste notre Seigneur. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça, c'est une certitude pour le croyant. Et c'est surtout une certitude lorsque le diable vient nous trouver et que justement, il cherche à nous mettre dans un coin, à nous dire « Ah, ça, tu vois, ce que tu as fait là, c'est terrible. » Oui, c'est vrai, ça peut être terrible ou ça peut être plus ou moins terrible ou ça peut être... Mais surtout, ne va pas devant Dieu pour le confesser. Ne va pas devant Dieu pour remettre tes péchés. Essaie de voir, parce que peut-être tu peux y arriver par toi-même. Peut-être tu peux t'en sortir tout seul. Alors que la Bible nous dit « Rien ne peut nous séparer ». Et c'est le moment de brandir l'étendard de la parole de Dieu. L'étendard de Christ, de dire « Non, 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 moi je sais que Dieu m'aime. Moi je sais que même si j'ai péché aujourd'hui, je peux retourner vers Christ pleinement et lui dire « Seigneur, j'ai péché. Je te demande pardon. Je sais que je n'ai pas à rester dans mon coin. Je n'ai pas à m'isoler dans mon coin. Mais à venir simplement devant Christ. » Parce que je sais qu'il m'aime. parce que je sais que son amour pour moi est infini, parce que je sais que son amour est éternel, et que ce n'est pas les mensonges du diable qui me feront fléchir. C'est pour ça que la parole de Dieu est si importante. C'est pour ça que ces paroles-là sont là, gravées, inscrites dans ces pages, pour nous faire comprendre que le péché voudrait dominer sur notre vie, que le diable voudrait nous écarter des projets de Dieu, mais que la réalité de notre vie, elle est en Jésus-Christ, et que cette réalité-là, elle prend sens lorsque notre cœur suit nos paroles, lorsque nos paroles s'accordent avec notre cœur pour proclamer la seigneurie, la royauté, la gloire de Jésus-Christ dans notre vie. Et Philippiens nous parle de ce que Christ a accompli dans Philippiens 3, a accompli pour nous, le fait que Christ est descendu, qu'il est venu, et le fait de ce que nous marchons avec Dieu afin de connaître Christ, afin de le connaître plus encore. Donc ce n'est pas juste l'état de là où nous en sommes qui importe seulement. C'est l'objectif que nous poursuivons dans cette relation avec Christ. Cet objectif-là, qui nous fait regarder au devant, non pas en arrière, je laisse toute chose en arrière, me tournant vers ce qui est devant, cherchant à atteindre le but, disait Paul. Atteindre le but. C'est là l'objectif de notre vie, de regarder à ce qui est au devant. Et ce qui est au devant, c'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Christ. C'est cet amour incommensurable dans lequel il veut nous trouver, dans lequel il veut que nous restions, dans lequel il veut que nous nous tenions fermement. Romains 10, verset 9 nous dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. » Ce n'est pas juste uniquement si tu crois en Jésus-Christ. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, et croire, je pense que peut-être on a un peu plus la mesure, j'espère en tout cas, ce que ça veut dire maintenant. Connaître, vivre, avoir cette relation avec Dieu, savoir se placer devant Dieu. Ce n'est pas uniquement juste une prière qui peut changer ça. C'est la durée, le temps avec lequel que nous dégageons devant lui, que nous plaçons devant lui, pour le contempler, pour se laisser imprégner par lui. Amen.
Amen.
Prions. Seigneur Jésus, tu es notre joie, tu es notre bien le plus précieux. Et ça, nous le savons, Seigneur. Et nous savons que tu as placé dans notre cœur cette foi pour déjà un jour, Seigneur, venir devant toi. Et nous savons que tu as du travail, Seigneur, que tu prépares pour nous, pour chacun d'entre nous. Des fois, Seigneur, les projets que nous voudrions former, ce n'est pas ces projets que toi tu veux former, Seigneur. Ce n'est pas ce que tu as comme objectif. Et des fois, Seigneur, les barrières, les obstacles, les malheurs qu'on peut voir, Seigneur, on se dit, mais Seigneur, où tu es, où est-ce que tu es? Alors que toi, Seigneur, dans tout ça, une simple relation, tu veux tracer avec nous et faire de nos vies un témoignage vivant. Un témoignage vivant, quel que soit le prix. Le prix de notre vie, Seigneur, c'est le prix de ta vie. Seigneur, que tu vives, Seigneur, en nous, pleinement. Que tu vives dans nos cœurs. Que pleinement, Seigneur, tu trouves cette place grande, Seigneur, pour faire ton œuvre, Seigneur, en nous. Pour faire ton œuvre dans nos cœurs. Pardonne-nous, Seigneur, et chacun d'entre nous, Seigneur, donne-nous de nous placer devant toi. Pour trouver ce temps, Seigneur, de nous recueillir devant toi et trouver cette force de ne pas laisser, Seigneur, le diable diffuser des mensonges, Seigneur, en nous. Trouver cette force de venir pleinement devant toi pour te dire, Seigneur, voilà, quel est le problème de ma vie? Quel est le problème de mon cœur? Viens, règne pleinement. Ne laisse pas l'ennemi triompher. Ne laisse pas l'ennemi avoir le dernier mot. Parce que tu es mon Seigneur et mon Dieu. Tu es celui qui règne. Seigneur, inspire-nous, inspire nos voix, inspire nos cœurs, surtout dans dans ces temps où des fois le travail recommence, où l'école recommence, Seigneur, alors que certains sur cette planète, certains, Seigneur, dans ces lieux, Seigneur, ont donné de leur vie pour toi, ont donné de leur cœur pour toi. Seigneur, même si certains sont auprès de toi, dans cette gloire qui est la tienne, nous sommes là, Seigneur, comme Seigneur, ces munitions dans ton carquois, comme ces flèches dans ton carquois, Seigneur, prêts à être envoyés par toi. Prêts à être envoyés par toi. Alors Seigneur, conduis nos cœurs et nos voix auprès de toi, dans ta pensée. Fais venir, Seigneur, sur nos vies, ton Esprit Saint, pour que nos vies changent et que nos vies, Seigneur, soient transformées de l'intérieur. Pas juste en paroles, pas juste en nouvelles décisions, mais de l'intérieur, Seigneur, profondément. Au nom de Jésus, Seigneur, tu connais nos vies et tu connais les cœurs de chacun d'entre nous. Inspire-nous, inspire nos voix et donne-nous, Seigneur, de vivre une vie, non pas par nous-mêmes, mais par toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Je ne fais pas d'appel. Des fois, je sais, on m'a dit, mais il faut que tu fasses des appels. Et je voudrais vraiment que vous restiez avec ça sur le cœur, que l'appel de Dieu, c'est celui qui est le plus important. C'est celui qui se trouve, pas des fois une fois, juste comme ça, mais vraiment dans la durée de ce que l'on vit dans cette semaine, dans la semaine, dans notre cheminement, au travail ou ailleurs. C'est ce cheminement-là que Dieu peut, dans lequel Dieu peut nous trouver vraiment. Soyez bénis.